Donc voilà, je vous prie d'accueillir Monsieur Amar Bellal, le représentant de Monsieur Fabien Roussel. Donc je vais vous expliquer le process de cette soirée. Donc en fait, vous allez disposer de 5 minutes qui sont affichées ici pour expliquer et exposer les mesures de Monsieur Roussel sur l'économie circulaire. Et à l'issue de ces 5 minutes, on prendra 10 minutes avec vous pour vous poser les questions que les étudiants ici et sur d'autres campus ailleurs en France nous auront montées via WookLab. Et les questions, vous pourrez vous-même les voir et ils vont voter pour celles qu'ils préfèrent. Voilà, je vous en prie.
Bon, ben écoutez, merci pour l'invitation. Bon, ça me rappelle le boulot parce que comme je suis enseignant à l'université de Rennes, j'ai des étudiants à peu près de votre âge. Et puis d'ailleurs, je salue les étudiants de Rennes 1 s'ils nous regardent. Et puis d'ailleurs, et puis j'espère que vous serez aussi attentifs que mes étudiants ce matin en cours. Alors, la question de l'économie circulaire, elle est intimement liée à l'épuisement des ressources. On a un vrai problème mondial. Et c'est un des grands défis de l'humanité avec le réchauffement climatique et la question des pollutions globales, c'est l'épuisement de nos ressources. L'épuisement de nos ressources, on a des courbes exponentielles de consommation de métaux stratégiques, y compris des métaux comme le cuivre, on risque d'en manquer. Et à tel point que moi j'ai tendance à dire que l'économie de demain, elle sera circulaire ou elle ne sera pas. Parce que tout simplement, on ne pourra pas produire les objets qui nous entourent de la vie courante. Je prends un exemple, la transition énergétique, eh bien, on va se retrouver face à un mur de cuivre si on n'organise pas le recyclage massif de ces métaux-là. Tout simplement parce que dans une éolienne, il y a beaucoup de cuivre, dans des réacteurs nucléaires, il y a beaucoup de métaux stratégiques, et la question énergétique, ça va être de plus en plus un problème d'extraction des métaux. Ça va être un problème de métal. Ça a pu être un problème de combustible fossile. Combustible fossile, il est en voie d'épuisement, mais on ne peut pas attendre l'épuisement des combustibles fossiles pour sauver le climat. On ne peut pas attendre, on ne peut pas compter sur la géologie. Il faut anticiper notre baisse de consommation de pétrole, de gaz et de charbon si on veut faire vraiment ce qu'on a dit pour la COP 21 de Paris puis pour la COP 26 de Glasgow. Et donc, de ce côté-là, ce problème-là, on va l'anticiper. Mais par contre, pour les métaux, on a un vrai problème. Alors, moi, je m'inscris en faux sur ce qui a pu être dit, sur le fait qu'on va responsabiliser les citoyens avec plein d'indicateurs dans les choix de consommation, des produits, toutes sortes de labels, etc. Et dire, ben, moi, je trouve que, bon, il faut le faire, mais c'est une vision, je trouve, étroite de la citoyenneté. Parce qu'on considère que la citoyenneté, elle s'exerce juste dans l'acte de consommation. Et c'est, du coup, infantiliser les citoyens. Je pense qu'il faut que les citoyens aient aussi voix au chapitre dans nos grandes décisions de mode de production au cœur des entreprises, aux côtés des salariés. Et pour nous, les salariés, c'est, comment dire, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas un problème, c'est la solution. Les salariés sont la solution à nos problèmes. Parce qu'ils connaissent, c'est eux qui savent le mieux dans leur entreprise comment faire évoluer leur entreprise vers une économie plus économe en énergie, plus économe en matières premières. Je vais prendre, et là-dessus, la loi n'est pas de leur côté, parce que je vais prendre un exemple qui montre dans quel problème on est. Vous connaissez peut-être la papeterie de Chapelle d'Arblay.
Hein, on en a parlé.
Dans l'heure. Oui, vous en avez parlé. Eh bien, ça recycle pratiquement tout le papier d'Île-de-France et de l'ouest de la France. Eh bien, pendant 10 ans, les salariés se sont mobilisés avec les élus, les collectivités, pour garder cette entreprise. Parce que la loi n'est pas de leur côté. Un actionnaire peut très bien décider, sur une usine aussi stratégique, de délocaliser en Inde ou ailleurs son usine, ou de la vendre en petits morceaux. Et donc, nous, on pense qu'il faut donner du pouvoir aux salariés pour qu'ils puissent arrêter, par exemple, ce genre de décision, et qu'ils puissent proposer des projets alternatifs, et des projets alternatifs qui seraient financés par une banque publique, un pôle public financier, avec des banques nationalisées, et qui permettraient, sur des critères d'efficacité énergétique, d'économie bas carbone, d'efficacité des matières premières, en fonction des projets, eh bien, de financer à bateau, ou alors... si ça ne va pas dans ce sens-là, eh bien, on laisse les taux d'intérêt comme ils sont. Et ça, c'est un levier politique qui est un vrai tabou dans notre système, parce qu'on touche au cœur du pouvoir des entreprises qui ont un pouvoir exorbitant. Il y a beaucoup de choses qui se décident dans les conseils d'administration de grandes entreprises qui impactent nos vies, nos modes de consommation, nos modes de production. Et je pense qu'il faut maintenant mettre les pieds dedans et puis, par la loi, eh bien, donner du pouvoir aux salariés pour changer ça.
Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Et on va découvrir ensemble les questions qui nous ont été remontées des campus et des personnes qui regardent à distance. Alors, quelle serait la mesure phare de M. Roussel en termes d'économie circulaire ?
Alors, une des mesures phares, je pense qu'il faudra... Il y a un enjeu de formation énorme. Et donc, je vais parler de la formation parce que la transition que l'on engage, il y a beaucoup de métiers qui vont changer. Il va falloir, même vous, dans ce que vous avez appris dans les écoles de commerce et autres, si tout va bien, on devrait avoir un monde qui fonctionne différemment. Et il y a beaucoup de vos cours qui seront peut-être un peu dépassés. Donc, il y aura un besoin de formation très fort, d'avoir beaucoup d'ingénieurs, de techniciens qui réfléchissent à des enjeux d'éco-conception. Je vais prendre un exemple. Dans les écoles d'ingénieurs, on ne travaille pas assez cette question d'éco-conception. Tout est mis dans la recherche concernant le recyclage, c'est-à-dire en aval du problème, une fois que le produit est sur le marché. Or, l'éco-conception, c'est un enjeu majeur. 80% des problèmes qu'on rencontre pour recycler nos produits, ça vient du fait qu'on a mal conçu les produits. Ils ne sont pas réparables. On a des alliages très compliqués qui font que le recyclage, il ne peut pas bien se faire. Et puis, le recyclage, c'est pour une utilisation après dégradée. Donc, on règle pas le problème. Donc, il faut maintenant des ingénieurs, des techniciens qui réfléchissent à des produits durables, réparables, et qui permettent aussi une économie d'énergie, de matériaux dans ces produits-là. Donc, je pense que la formation, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais c'est un enjeu majeur. On aura beau aligner des milliards de financement, s'il n'y a pas des gens formés, et c'est vous qui allez le faire demain, eh bien, et former un ingénieur, hein, c'est 5-10 ans. Il faut aussi l'expérience, donc attention à cet aspect-là.
Très bien, merci. Donc là, vous avez parlé de la formation. Une autre question par rapport aux actions pour vraiment développer l'économie circulaire à grande échelle. Quelle autre initiative majeure, quelle autre action majeure, au-delà de la formation, pour développer cette économie circulaire à une grande échelle ?
À grande échelle, je reviens sur... Alors, moi, je pense qu'il faut des indicateurs assez clairs sur la question de l'économie circulaire. Et comme c'est aussi un enjeu autour du climat, parce que je pense que il faut que la stratégie nationale bas carbone, eh bien, elle intègre plus fortement les questions de l'économie circulaire avec des indicateurs. La stratégie nationale bas carbone, elle donne une trajectoire de baisse de nos émissions de CO2 pour arriver à une neutralité carbone. Eh bien, pour entraîner le pays dans une voie vers l'économie circulaire, il faut une planification globale jusqu'en 2050, parce que la cible, c'est qu'en 2050, la France, elle soit neutre en carbone. Et ça fait partie de l'économie circulaire, parce que tout ce qu'on n'extrait pas, c'est de l'énergie en moins qu'on a dépensé, et c'est du carbone en moins. Et donc, il y a une grande mesure de planification, avec des objectifs, année après année, comme le fait la stratégie nationale bas carbone pour nos émissions de CO2, mais avec des indicateurs sur l'économie circulaire. Alors c'est de la planification, c'est un grand mot, mais sachez que la planification en France, elle a existé. Et ça a très bien marché. Ça a permis de... Pratiquement tous les équipements que vous voyez autour de vous ont été construits aussi dans une période où la France planifiait son économie.
Merci. Alors, une autre question. Vous avez... je vous laisse regarder également si vous voyez une question qui... Puisque d'autres ont choisi.
Alors peut-être le besoin de décroissance.
Oui.
Ouais. Alors, moi je pense là-dessus, c'est que on aura besoin de croissance, par exemple, pour construire des hôpitaux, des lycées, des universités. Ça va être de la croissance. Par contre... on va avoir besoin de décroissance pour tout ce qui est activité polluante. Donc la question croissance-décroissance, c'est un faux problème. C'est quel contenu on va donner à la croissance. Ça, c'est très important parce que sinon, on rentre dans des débats un petit peu stériles. Si on reste dans des débats généraux, c'est pas intéressant. Par contre, on fait la liste de ce qu'on veut faire croître et on fait la liste de ce qu'on veut faire décroître. Peut-être que le PIB augmentera, peut-être qu'il baissera largement, mais je pense pas, parce qu'il y a encore des millions de personnes, par exemple, qui sont dans la précarité énergétique. Et puis, au niveau mondial, ça c'est sûr, il faudra de la croissance. Mais parce que on va être 9,5 milliards d'habitants en 2050, et il y a de larges parties de la population dans le monde qui n'ont pas encore accès au développement. Quelque part, le problème des matières premières, c'est aussi ça. C'est l'accroissement démographique et puis l'entrée légitime de centaines de millions de personnes dans le développement. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des gens où le niveau de vie augmente. Mais ça pose d'autres problèmes très redoutables, c'est-à-dire l'épuisement des ressources. Il y a peut-être une mesure, je pense, qui... personne n'en a encore parlé, mais c'est sur la question énergétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Astrid. Astrid, c'est un réacteur nucléaire de quatrième génération, c'est les surgénérateurs, et qui permettrait de brûler des milliers de tonnes d'uranium appauvri que nous avons sur notre sol. L'équivalent de cet uranium, l'équivalent en électricité de tout cet uranium appauvri qui se trouve sur notre sol, en France, c'est l'équivalent de 5000 ans d'électricité. 5000 ans d'électricité. Ça veut dire que si on a ces réacteurs un jour, eh bien, on n'a plus besoin de faire un seul trou pour aller chercher de l'uranium. Eh bien, Astrid a été arrêté par ce gouvernement. Il a été arrêté par ce gouvernement et la raison invoquée, c'était que l'uranium, finalement, ça coûte pas cher, donc on va pouvoir... C'est pas l'urgence de recycler l'uranium qui se trouve sur le sol français. Là, c'est un exemple, je trouve, de raisonnement qui... où ce sont les critères, comment dire, de profit immédiat, de rentabilité du capital... Qui prévaut, alors que on a ici l'occasion de faire de l'économie circulaire pour l'énergie et puis pour des centaines d'années. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que Fabien Roussel propose de relancer le programme Astrid et d'engager des investissements très forts dans la recherche pour avoir ces réacteurs de quatrième génération. C'est aussi ça l'économie circulaire. C'est pas juste les emballages ou le recyclage tel qu'on le pense, du papier, etc. C'est aussi des grandes questions industrielles où on récupère on parle d'écologie industrielle, c'est-à-dire que les usines, entre elles, récupèrent les déchets des autres, sont la matière première. Et puis, y compris au niveau de l'énergie, on peut aussi avoir des écosystèmes industriels où chaque site de production récupère la chaleur dégagée de tel ou tel site et ainsi ne perdre le moins possible d'énergie. Je pense que c'est important de parler de ça parce que c'est pas très médiatisé, mais la France a les moyens d'être autonome en énergie pendant des siècles si elle développait ces réacteurs-là.
D'accord. Très bien, merci. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Et finalement, j'ai envie de vous en poser une qui est revenue plusieurs fois et qui est aussi une des mesures proposées par le collectif Économie Circulaire 2022. En tout cas en partie, donc sur la TVA réduite pour les biens de seconde main. Que pensez-vous d'une TVA réduite sur les biens de seconde main ou d'autres utilisations liées à l'économie circulaire?
De toute façon, il faut encourager la réutilisation des produits en fin de vie. En fin de vie, on peut... ça permet d'économiser de la matière, donc de l'énergie. On serait favorable à ce genre de mesures, mais je pense que il faut voir la question aussi plus largement. C'est que on a un système aujourd'hui publicitaire, on a des critères de marketing qui fait que dans la conception des produits, ce qui prévaut, c'est que ça puisse se vendre en masse et puis c'est possible renouveler nos désirs de consommation pour changer nos produits à chaque instant. Régulièrement. Ils sont très forts, ils ont des psychologues, ils ont une armée de psychologues, de communicants, etc. Ils savent très bien vous faire acheter un peu n'importe quoi alors que vous n'avez pas forcément besoin. Donc il faut aller vers une économie où on dépasse aussi ça. On dépasse ça, c'est-à-dire, c'est un peu triste d'avoir une société où il y a des individus qui se réalisent à travers la possession de, de produits. Et ça, ça passe aussi par une société de la culture, de la connaissance, où les gens s'émancipent sans avoir besoin d'avoir le dernier portable à la mode ou la dernière voiture, ou, etc. Donc ça, c'est une question large de société, c'est-à-dire sortir de la société de consommation dans laquelle on est emprisonné. Alors c'est des débats pas faciles, parce que comment définir les besoins d'une société ? Il faut de la démocratie, il faut beaucoup de démocratie, des salariés qui parlent avec des citoyens, des élus, etc.
Merci infiniment. Merci beaucoup.